Vous allez écouter Les Pieds dans le Parc, une émission réalisée en partenariat avec la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil départemental de Vaucluse et le SMAEV, syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux.
Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous mensuel consacré à notre beau territoire du Mont Ventoux, à tous les acteurs qui l'habitent, qui l'animent et qui le font vivre. Et pour co-animer cette première émission, je serai accompagné de Anne. Bonjour Anne.
Bonjour.
Ravi de te retrouver devant le micro d'RTVFM. Je crois que c'est la première émission que l'on fait ensemble, Anne.
C'est la première, tout
alors,
à fait.
Anne, c'est associativement vote, donc si vous avez l'occasion, vous écoutez, c'est en podcast, en replay, on dit podcast en radio. Toutes les émissions de Anne sont associativement vote, où tu reçois tout le secteur associatif de toute la Corve et de tout le secteur de là où nous nous trouvons du studio. Merci en tout cas de participer à cette émission. Alors peux-tu nous donner le thème de ce premier numéro des Pieds dans le Parc ?
Donc nous aborderons le projet de création du parc naturel régional du Mont Ventoux et pour en parler, nous accueillons donc dans nos studios de RTVFM Jacqueline Bouillac qui est conseillère régionale déléguée aux parcs naturels régionaux de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, la première vice-présidente du SMAEV et première vice-présidente de la commission des parcs naturels régionaux.
Bonjour à tous.
Ensuite, Luc Reynard, maire de Bédouin, vice-président du SMAEV, vice-président de la COV et président de l'Office de tourisme intercommunal, OTI, Ventoux-Provence.
Bonjour à tous.
Bonjour Luc.
Bernard Mondon, président des Carnets du Ventoux, la revue qui couvre tout le territoire du parc du Ventoux, sur lequel on reviendra. Et Ken Reyna, responsable du projet de parc naturel régional du Mont Ventoux.
Bonjour.
Bonjour, donc merci à tous d'être venus accepter cette invitation. Et je vais laisser la parole à Alain pour débuter les premières questions.
Merci Anne. Et donc pendant près d'une heure, nous allons donc débattre sur le projet de création du parc régional naturel du Mont Ventoux. Et pour commencer, tout simplement, nous aimerions connaître la définition d'un parc naturel régional et sa vocation. Peut-être Jacqueline Bouillac, mais en tout cas, les questions sont ouvertes pour tout le monde. Donc voilà, on vous laisse tout simplement nous parler un petit peu, nous présenter et nous donner la définition d'un parc naturel régional et sa vocation.
Alors, un parc naturel régional, c'est un territoire rural habité, reconnu au niveau national, mais qui a une richesse par son patrimoine naturel, culturel et pour ses paysages. Un équilibre fragile, c'est à souligner, qui s'organise autour d'un projet commun de développement durable fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine.
De son patrimoine. Donc ça, c'est la vocation, c'est la définition d'un parc.
C'est un territoire vivant et dynamique qui a pour vocation de protéger et de valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire. Il n'y a rien d'inquiétant dans tout cela.
Il n'y a rien d'inquiétant. Et je pense que c'est le 9e parc qui est en...
Aujourd'hui, nous en avons 8 dans la région sud.
Oui.
L'avant-dernier, donc le 8e, était celui du parc de la Sainte-Baume, qui a été validé en décembre 2017. Et le 9e va être validé, donc le parc du Mont Ventoux sera validé en décembre 2019.
On reviendra effectivement, merci Jacqueline Bouillac, on reviendra un petit peu sur toute, justement sur l'ensemble des dates et l'évolution. Et ça fait déjà plusieurs années que vous travaillez, on en reparlera tout à l'heure sur ce projet de parc. Anne, tu avais donc une autre question à poser.
Alors on a parlé de parc naturel régional, mais ce qui nous intéresserait peut-être, c'est de savoir la différence qu'il y a entre un parc naturel régional et un parc national. Ken, peut-être que vous pouvez nous éclairer là-dessus.
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion autour d'un parc national, un parc naturel régional. Et souvent, on s'est retrouvé en tant qu'habitant ou en tant que professionnel face à cette confusion. Les gens assimilent souvent les deux alors qu'il y a une différence qui est fondamentale. La première, c'est qu'un parc naturel régional est à l'initiative des gens, des élus, des acteurs socio-économiques qui vivent et qui habitent sur un territoire. Et Madame Bouillac l'a bien souligné, on est sur un territoire vivant et dynamique. Donc il y a vraiment une volonté locale du territoire de prendre son destin en main et de se regrouper, de se réunir pour les 10-15 années à venir autour d'un parc naturel régional. Parc national, c'est très différent. C'est l'État, le ministère de l'écologie, qui lui-même engage une démarche, une procédure déjà sur ses terrains, donc sur les terrains dits domaniaux, la propriété de l'État. On le retrouve par exemple dans le parc national des Écrins, à proximité de chez nous, toute la barre des Écrins, il y a une propriété de l'État français qui est très forte, et l'État a engagé au départ même dans la philosophie un parc national pour protéger la nature. Voilà. Bien qu'aujourd'hui les parcs nationaux aient évolué dans leur façon de faire et dans leur philosophie, on sent bien que d'un côté on a un parc naturel régional, une volonté locale de préserver ses patrimoines et d'en faire un atout de développement économique de développement local. Et de l'autre côté, un parc national, l'État qui dit, moi, sur mes terrains, j'associe les communes riveraines, mais je veux protéger la nature et je veux faire de l'économie. On est quand même sur des dimensions très différentes, puisqu'une charte de parc se bâtit avec tout le monde, et qu'initialement, les chartes de parcs nationaux, c'est quand même l'État qui tenait la plume de manière un petit peu unilatérale.
Luc ?
Oui, simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'à une époque où on parle beaucoup de démocratie participative, de débat qui associe les populations, eh bien, c'est une filiation directe. Donc on est véritablement dans l'esprit du temps, puis bien entendu ce qui est important c'est surtout cette protection environnementale de ce milieu merveilleux qu'est le Ventoux.
Qu'est le Ventoux, effectivement, je comptais, ça regroupe un petit peu la question que je voulais, Ken Reyna, à vous poser. Alors les parcs nationaux existent depuis plus longtemps que les parcs régionaux ou ils ont naissance un petit peu en même temps?
Oh, c'est globalement le même courant de pensée en France, hein, on parle, oui, hein, oui. Issu de, après la Deuxième Guerre mondiale, et puis cette émergence un petit peu de préservation de l'environnement qui était surtout marquée dans les pays anglo-saxons.
Oui.
Et on le voit bien notamment dans la création des parcs naturels régionaux à la française, où il y a une mission exploratoire qui avait été mise en place par le général de Gaulle à l'époque, qui avait conscience justement de la richesse des territoires ruraux français, en disant il faut, en même temps que l'on développe les villes, essayer de garantir la ruralité, assurer un développement de nos territoires les plus lointains. Parce qu'il y avait l'exode rural qui était marqué, etc. Et je reviens sur ce modèle anglo-saxon. C'est vrai que les Américains, depuis le 18e, 19e siècle, avaient développé tous les parcs nationaux que l'on connaît aujourd'hui, qui sont tous emblématiques aussi de ce pays-là. Et donc, c'est vrai que cette mission exploratoire qui était composée d'agents de l'État tournait un petit peu dans toute l'Europe, a exploré un petit peu ce qui se faisait aux États-Unis aussi, et puis revenu en ayant le concept des parcs naturels régionaux, qui a fait l'objet du premier décret de création en 67, dans le coin de l'année 1967, par le général de Gaulle, qui disait vraiment que l'on était sur des territoires ruraux, habités, comme le soulignait Mme Bouillac tout à l'heure, hein, et qu'on n'était pas sur des territoires uniquement naturels, et que l'on voulait faire de l'économie et du développement sur ces territoires, voilà. Mais qu'il fallait s'organiser un petit peu, voilà.
Je pense qu'il faut peut-être ajouter qu'il y a une différence fondamentale entre un parc naturel régional et un parc naturel national. Parce que les gens restent avec l'idée que dans un parc naturel régional, il y a les mêmes contraintes que dans un parc naturel national. Pas du tout. Hein, il y a beaucoup plus de liberté, il n'y a pas de... comme beaucoup d'expressions disent, mise sous cloche.
On y reviendra effectivement tout à l'heure pour rassurer un petit peu tout le monde là-dessus. Les questions, d'accord, justement vont tourner pendant le tour de ça. Simplement, ben, Jacqueline Bouillac, en tant que politique, pourquoi le poste justement? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce poste? Je le rappelle, puisque vous êtes la déléguée régionale, déléguée aux parcs naturels régionaux de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pourquoi ce poste? Qu'est-ce qui vous a séduit?
Qu'est-ce qui m'a séduit dans ce poste? Peut-être en tant que femme, je le disais dernièrement, en tant que maman, entre mamie aussi, j'ai besoin de protéger aussi la nature, l'environnement, préserver l'avenir de nos enfants. Je pense que c'est primordial et peut-être vu avec des yeux féminins, entre guillemets, ça passe peut-être plus facilement.
C'est une bonne réponse, merci. Quelles sont les missions d'un parc? Alors elles sont, question ouverte pour tout le monde, mais elles sont énormes ces missions. Est-ce que vous pourriez les énumérer? Luc, peut-être,
je crois que la première mission dont chacun est conscient, qui vient naturellement, c'est la protection environnementale. Ceci dit, il faut une protection adaptée. Il n'est pas question, on en a déjà parlé, de tout interdire. Et ce serait absolument aller contre la volonté des personnes du territoire. Donc, alors bien entendu, c'est aussi un moyen de faciliter l'accueil de toutes les populations qui viennent chez nous, parce que nous l'ignorons, bien entendu, et là, c'est peut-être avec la casquette touristique que je vous parle, donc nous ignorons la fréquentation de ce pourtour du Ventoux. Et donc, de quelque côté que l'on le voit, des personnes viennent parce qu'elles y trouvent intérêt, parce qu'elles y trouvent donc des lieux culturels, parce qu'elles peuvent y apprécier aussi un mode de vie particulier. Donc c'est important ce plan, cette valorisation patrimoniale. Ce qui est important aussi, c'est que c'est un moyen qui nous permettra de faire du développement économique, justement, parce que déjà, de par les techniciens, de par la technicité qui nous est apportée par le réseau parc, on va pouvoir mieux s'organiser sur ce territoire. Et surtout, ce qui est important, c'est que l'on va pouvoir valoriser nos produits. Produire, on sait le faire. Produire bien et produire bon, on sait le faire aussi, mais je crois qu'il nous faut maintenant le faire savoir et justement bien faire savoir que c'est sur ce territoire privilégié que tous les produits que nous pouvons mettre à disposition à la fois de la population locale, c'est le plus important, et de nos amis touristes, eh bien c'est grâce justement à ces parcs que nous pourrons continuer le développement de ce territoire, tout en le respectant dans son histoire et en orientant un devenir harmonieux.
Alors, est-ce qu'il y a une place aussi pour l'expérimentation et l'innovation dans les missions du parc ?
Absolument. Là aussi, c'est justement le fait à la fois de connaître, de mieux connaître ce territoire. C'est à la fois le fait de pouvoir s'appuyer sur de la technicité, sur de la technique, sur de l'appréhension du territoire, avec tous les chercheurs, donc tous ceux qui observent la nature autour de nous, qui nous aident à organiser que l'on va justement pouvoir mettre en avant plus de richesse que ce que nous le faisons jusqu'à maintenant, et de cette manière, eh bien, on va continuer à élever le niveau de ce territoire.
Et vous y apporterez le label parc.
Avec un label.
Avec un label, c'est vrai que j'allais préciser, le label est très important. Bernard Mondon.
Oui, il y a une mission qui n'a pas encore été évoquée, qui me semble-t-il est importante, c'est faire vivre et partager les patrimoines. Faire vivre et partager la culture. Et Dieu sait si la culture et la culture patrimoniale dans notre pays est importante, mais on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus.
Sur les prochaines questions, on aura largement le temps de revenir dessus. Ken, Renard ?
Moi, quand j'entends les propos qui viennent d'être tenus, je trouve qu'il y a un élément qui revient. C'est celui que M. Mondon a expliqué il y a une minute, de faire vivre et partager. Et je crois que cette notion de partage est très importante. Ce qui est spécifique, je trouve, aux parcs naturels régionaux, et ça a été évoqué sur ces questions de démocratie un petit peu participative aussi, c'est que un parc naturel régional, c'est pas que le projet d'une structure, c'est pas que le projet des élus, c'est un projet qui appartient à tout le monde. Un parc naturel régional, il est ce que les habitants veulent en faire. Et c'est vraiment cela dans la création et dans la vie d'un parc où chacun est acteur de ce parc. C'est pas un projet, encore une fois, pour des institutions, c'est avant tout un projet pour des habitants qui vivent sur un territoire exceptionnel. Je pense que personne ne peut douter aujourd'hui que le Ventoux est un territoire exceptionnel, mais qui se disent, bon, on prend un petit peu notre destin en main et on veut être un peu aux manettes, voilà, de ce destin-là. Et un parc le permet.
Et d'ailleurs, on s'en est rendu compte, si je peux me permettre, au moment où le projet a été remis en question, c'est la mise en place d'un collectif, un collectif d'associations, un collectif de responsables d'entreprises, d'artisans, qui s'est levé. On a fait une pétition, il y a eu 6000 personnes qui ont répondu favorablement à l'arrivée et à la continuité de la mise en place de la charte, parce qu'on s'est rendu compte qu'au-delà des élus et au-delà des techniciens, les habitants sont là, et un parc, il doit prendre en compte de façon importante l'avis, le souhait et ce que les habitants du pays souhaitent en faire.
Alors, Jacqueline Bouillac, Bernard Mondon vient de parler d'une remise en question, alors sans bien sûr revenir sur toutes ces années de travail que vous avez effectuées avec Renaud Muselier, quel a été le changement de cap ? On sait qu'il y a eu un moment, un flottement, pour faire simple, où le parc, on ne savait plus trop si ça allait réellement aboutir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Au moment des élections régionales, la question se posait effectivement de savoir si le 9e parc verrait le jour ou si on s'arrêtait à 8 parcs dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et là, c'est le président Muselier, lorsqu'il est venu à Vedaine pour les vœux de janvier 2018, qui a dit clairement qu'il y avait eu assez d'argent dépensé jusqu'à maintenant pour préparer un parc. Ça faisait des années que ça durait, qu'un travail avait été fait, certes, mais qu'on ne voyait rien aboutir. Alors, c'était notre dernière cartouche, si on peut dire, pour faire aboutir ce parc, c'était de reprendre tout le travail qui avait été fait, de retravailler avec tout le monde, de faire intervenir les associations, de préparer, de faire des ateliers sur différents thèmes, le tourisme, l'agriculture. Bon, nous avons fait tous les ateliers, qui se concluait par un comité de pilotage chaque fois, où on donnait le compte rendu de ce qui avait été dit, les craintes, tout ce qui avait été exploité. Et là, on s'est aperçu qu'à la fin, donc en décembre 2018, à notre dernier comité de pilotage, où on a présenté en même temps les statuts, parce qu'on n'était pas obligé de le faire non plus, mais là, moi, je tenais à ce que les statuts soient présentés à tout le monde et validés par tous. Et j'ai eu l'agréable... pas surprise, mais j'ai eu l'agréable sensation de voir que tout le monde avait approuvé, que les inquiétudes étaient apaisées et que ce parc était finalement le bienvenu dans le Ventoux.
Si je ne devais retenir qu'un chiffre, ce sont 1200 personnes qui ont participé aux ateliers lorsque nous avons écrit la charte. Et quand je dis 1200 personnes, certaines d'entre elles représentaient des associations entières. Donc c'est vraiment une émanation populaire au bon sens du terme, c'est-à-dire c'est le terrain qui a dit ce qu'il imaginait de même pour son territoire.
Et on peut même ajouter que dans ces associations, il y avait aussi bien sûr les maires, et les maires qui ont été finalement rassurés, puisqu'on a pris les 9 maires du Massif pour faire le conseil de Massif et surtout pour faire décanter les questions, pour faire décanter les soucis qui pouvaient être dits ou rencontrés tout au long du parcours. Donc ces 9 maires du massif, enfin c'est carrément ceux qui sont dans le Ventoux, n'avaient pas du tout envie de se laisser imposer des choses par les 30 autres maires, surtout qu'il n'y ait pas d'intercommunalité trop importante, surtout, voilà. Donc le Ventoux, il n'est pas qu'aux 9 du massif, hein, il est à tout le monde, mais c'était important qu'en plus il y a 3 portes d'entrée, c'était Malocène, ouais, Bédouin. Et Sceaux. Donc c'était 3 portes d'entrée qu'il fallait respecter, 3 sites qu'il fallait considérer différemment. On peut remercier le maire de Bédouin sans crainte parce qu'il a participé à tous les ateliers. Il n'a pas toujours été aidé par sa population par moment, mais bon, peut-être qu'il y avait beaucoup d'incompréhension et tout va être éclairci.
Je pense que voilà, beaucoup d'incompréhension et qu'ils sont en train de s'estomper. Ken Reyna.
Ouais, il y a quelques minutes, on parlait d'expérimentation et d'innovation dans les parcs. Et Madame Bouillac vient d'évoquer la question du conseil de massif. Et c'est vrai que là, c'est une réelle innovation de trouver ce type de fonctionnement pour les parcs naturels régionaux. On expérimente un fonctionnement parce que sur le Ventoux, on a une particularité, c'est une montagne isolée, voilà, qui culmine à un petit peu moins de 2000 mètres avec des plateaux et la plaine environnante. Et c'est vrai que ce qui signe notre identité, l'attractivité de ce territoire, sa culture, le Ventoux, c'est une entité particulière. Ben, ce conseil de massif reconnaît cette particularité et fait en sorte que les 9 maires du massif soient les premiers concernés aussi par le parc, quelque part. Et qu'il semble normal que dans le circuit des décisions, ces 9 maires-là soient associés un peu prioritairement pour savoir s'il n'y a pas d'interférence entre des sujets qui pourraient être posés sur la table par le parc en général et qui viennent interférer donc avec leur commune. Donc c'était important aussi de reconnaître cette particularité et ça a été plutôt bien accueilli par la Fédération des parcs, par le ministère, qui a dit vous innovez, vous expérimentez.
Ça les a inquiétés au départ, notre système d'innovation, mais ils avaient l'impression que... En fait, c'est parce que c'était jamais arrivé dans les 53 autres parcs. La question ne s'était pas posée. Donc, ils se demandaient pourquoi on avait voulu faire ça. Et quand on leur a expliqué la situation, justement, du Mont Ventoux, la problématique des 9 maires du massif, ils ont trouvé que c'était très innovant et que peut-être d'autres futurs parcs devraient s'en inspirer
pour la suite.
Voilà.
On va se faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Merci, à tout de suite.
Même si je rêve à vive allure seul, Manhattan endormi, un peu perdu sur l'avenue, quand on roule sans permis. Misé son dernier dollar cash dans un bar un peu trash. Promis qu'on s'en ira, son jackpot pour pourboire. New York 90 me paraît tellement loin. Poster de Tupac ou d'Elvis, mon quart d'heure américain. Oui, moi j'en ai rêvé. New York 90, est-ce que tu t'en souviens? New York 90, avant le jour d'après. New York 90, qui saura se rappeler mon cœur de l'américain. Même si je rêve à vive allure seule, que la nuit me défie, un club perdu dans la ville, je suis qu'un bandit apprenti. Les buildings des visages slash, l'Atlantique nous regarde. Promis qu'on ira voir au-delà de ces boulevards. New York 90 me paraît tellement loin. Poster de Tupac ou d'Elvis, mon quart d'heure américain. Oui, moi j'en ai rêvé. New York 90, est-ce que tu t'en souviens? New York 90, avant le jour d'après. New York 90, qui saura se rappeler mon cœur de l'américain. Oui, moi j'en ai rêvé. New York 90, est-ce que tu t'en souviens? New York 90, avant le jour d'après. New York 90, qui saura se rappeler mon cœur de l'américain.
Vous écoutez Les Pieds dans le Parc, une émission réalisée en partenariat avec la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil départemental de Vaucluse et le SMAEV, syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux.
Toujours effectivement sur RTVFM, nous écoutez sur le 102.2 ou le www.rtvfm.net, Les Pieds dans le Parc, deuxième partie, nous sommes toujours avec nos invités, je le rappelle, Jacqueline Bouillac, conseillère régionale déléguée aux parcs naturels régionaux de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, première vice-présidente du SMAEV. Nous sommes également toujours avec Monsieur Luc Rénard, maire de Bédouin, vice-président du SMAEV, vice-président de la COV et président de l'Office de tourisme intercommunal Ventoux-Provence. Également Bernard Mondon, président des Carnets du Ventoux et Ken Rénard qui est responsable du projet du parc naturel régional du Mont Ventoux. Anne, une question pour redémarrer cette deuxième partie.
Alors, après avoir échangé sur les missions et ce qu'est censé faire un parc régional, on peut se poser quand même une première question, à savoir, mais pourquoi un parc régional au Ventoux, précisément au Ventoux ? Alors, je me tourne un petit peu vers Bernard Mondon. Il y a une forte identité par rapport aux habitants.
Bien sûr, depuis très longtemps, le Ventoux, le massif du Ventoux, souffre d'une approche individualiste. Chaque habitant de chaque village, chaque élu, qu'il soit maire, qu'il soit conseiller départemental ou député, a une approche depuis le village où il habite ou depuis le lieu où il vit. On a les gens qui sont du Toulourain, on a les gens de l'Anesque, on a les gens du plateau de Sceaux, les gens du comté venissin. Et l'intérêt d'un parc, c'est que ça va amener, le parc naturel régional, le futur parc, va amener une approche globale autour d'un projet de développement fondé sur la valorisation du patrimoine de la montagne, pour le valoriser et la défendre, cette montagne. Jusqu'à présent, chacun avait son avis, son point de vue. D'ailleurs, on dit souvent, quand on parle du Ventoux, c'est mon Ventoux. Mmh. Quand nous, on fait beaucoup de reportages dans les villages autour de la montagne, et beaucoup de maires ou d'habitants, quand on les interroge, on dit « c'est quoi pour vous le Ventoux ?»« C'est mon Ventoux, le possessif. » En fait, l'approche intéressante et que va permettre de donner ce nouveau parc, ce futur parc, c'est d'avoir une approche globale, c'est-à-dire on va se regrouper et on va mutualiser tous les objectifs, qu'ils soient au niveau de la culture, qu'ils soient au niveau de l'économie, qu'ils soient au niveau de la protection de la nature, et bien on va tous travailler ensemble. Et un parc, c'est faire travailler tout le monde ensemble. C'est une approche globale et dans un sens de développement durable. C'est-à-dire qu'on ne fait plus les choses aujourd'hui comme on les faisait hier. Et c'est en ce sens qu'un parc va apporter un plus, c'est-à-dire qu'on va passer d'une vision individualiste à une vision globale, à une vision, c'est-à-dire que les problématiques qui seront posées par les gens du comté venissin seront également réfléchies par les gens du plateau de Sceaux, de la vallée du Toulourain. Voilà, chacun va apporter sa pierre et on va défendre et valoriser cette belle montagne en travaillant tous ensemble.
Bernard Mondon, vous représentez, donc vous êtes président, comme disait Anne, des Carnets du Ventoux. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, parce qu'on vous semble passionné dans ce que vous venez de nous dire, vous représentez un petit peu la parole des habitants, mais les Carnets du Ventoux, comment est-ce que c'est venu et depuis quand vous avez créé les Carnets du Ventoux ?
Les Carnets du Ventoux, c'est une revue associative, oui. C'est très important d'appuyer là-dessus, c'est une revue associative qui est rédigée et illustrée par des gens du pays. Tous bénévoles. Alors cette revue, elle sert à quelque chose puisqu'il y a 33 ans qu'on existe et ça continue, et j'allais dire, ça continue de mieux en mieux. On est là pour parler du Ventoux d'hier, mais aussi du Ventoux d'aujourd'hui et du Ventoux de demain. Et c'est pour ça qu'on est impliqué, qu'on s'implique tous au travers du collectif des habitants, collectif qui a été créé il y a quelques mois, pour défendre ce projet qui nous paraît être un projet d'avenir et un projet d'une vision, je répète, une vision globale, et non pas un projet qui va satisfaire le versant sud au détriment du versant nord ou le versant est au détriment du versant ouest.
Du versant ouest. Anne.
Alors, on va voir un petit peu au niveau du territoire. Combien de communes et d'intercommunalités se trouvent donc impactées dans le périmètre du futur parc ?
Eh bien, nous sommes 39 communes, donc il y a 5 intercommunalités, dont 3 qui auront à jouer un rôle peut-être un peu plus actif, et cela représente environ 90 000 habitants sur le territoire. Et quand on fait le ratio, c'est à peu près un habitant par kilomètre carré, oui. Ce qui prouve qu'on est véritablement dans un espace rural, oui. Au-delà du fait, bien entendu, qu'il soit magique et magnifique, mais je l'ai déjà dit.
Alors il y a une commune, il y a juste un petit bout de la commune, c'est Pernes-les-Fontaines. J'ai pu voir, c'est juste. Alors c'est dû à quoi ? C'est le découpage ? Qu'est-ce que c'est exactement, Ken Rena ?
Oui. Alors il y a plusieurs communes en fait qui sont découpées. Oui, vous avez Pernes-les-Fontaines, Velleron, Carpentras et Aubignan. Voilà. Ces 4 communes sont découpées. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant. C'est pas habituel. de travailler de cette manière-là. Mais en fait, on revient vraiment à ce que l'on disait tout à l'heure et qui a été encore évoqué sur l'unité autour du Ventoux, qui est un peu le fil conducteur d'un parc naturel et de ce parc naturel régional en particulier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un parc, ça se base aussi sur une vraie unité, une cohérence, notamment en termes de paysage et de tradition, d'activités traditionnelles et de savoir-faire. Or là, ces communes, en fait, sont vraiment découpées. Vous avez dans leur partie ouest, plutôt soit des boisements typiques de pins maritimes, de pins d'Alep, etc., qui sont très méditerranéens, ou des cultures, ce qu'on appelle la trilogie agricole Ventoux, hein. Voilà, l'arboriculture, la viticulture. Et de l'autre côté, sur sa partie est, on est plutôt dans des systèmes très humides, plutôt tournés vers les sorgues, de grandes prairies ou de maraîchage. Ce qui fait que pour faire un parc, il faut avoir une vraie unité, une vraie cohérence. Et c'était un petit peu un débat que l'on a eu dès le lancement de ce projet de parc il y a quelques années, à savoir comment placer le trait. Voilà, il y a eu de longs débats avec notamment les services de l'État et le ministère sur ces questions-là. Et bon, je pense qu'on est arrivé à quelque chose d'assez rationnel et compréhensible et cohérent. Oui.
Alors, Luc Renard, vous le disiez qu'il y avait plusieurs intercommunalités. Est-ce que ça ne rajoutait pas encore une difficulté? Ou est-ce que justement, non, le fait qu'il y ait une intercommunalité, c'est plus facile à nous de s'exprimer? Est-ce que ça a un avantage ou un inconvénient?
Non, je pense que tout est complémentaire. Les intercommunalités, bon, vous le savez, montent en puissance en termes de compétences. Et au sein des communes, mais souvent avec une baisse des moyens, on n'est plus à même de les exercer, ces compétences. Mais par contre, il n'y a absolument pas d'antagonisme entre les intercos qui vont devenir, je veux dire, c'est quasi inéluctable, le lieu de réflexion territoriale et un parc. Je crois qu'il faut bien se souvenir que le parc a des missions, alors que l'intercommunalité a une compétence, c'est-à-dire le pouvoir de décision. Et ce qui est important, c'est que de par la spécificité des équipes des parcs, eh bien, on peut remplir des missions donc qui nous sont commandées par les intercommunalités. Par exemple, on a eu des collaborations très affirmées et précieuses lorsque on monte actuellement le SCOT, le schéma coréen d'organisation territoriale de notre territoire, avec donc la COV et Ventoux Sud, pour parler des intercommunalités. Eh bien, on a eu recours aux techniciens du syndicat mixte, donc qui sera demain le syndicat du parc, pour faire des études très particulières et très précises sur des habitats, sur différentes organisations territoriales. Et c'est bien dans ce sens qu'il faut le voir. On n'est pas du tout sur un antagonisme, sur une opposition. Au contraire, complémentarité pour aller plus loin et pour faire mieux.
Merci. Alors c'est vrai que l'émission du SMAEF, on y reviendra peut-être un jour dans une autre émission, mais le son très vaste, Ken Renard, c'est vraiment quelque chose, sans rentrer dans les détails, c'est le SMAEF, syndicat mixte d'aménagement et d'équipement de Ventoux, c'est des missions, il y en a énormément.
Alors je ne sais pas si on peut dire qu'il y en a énormément, mais ce qui est certain, c'est qu'avec le parc qui va naître demain, bon, et au regard notamment des intercommunalités, comme le soulignait M. Renard, il y a aussi un peu une modernisation des choses à réaliser sur ce territoire-là. Et toujours en travaillant dans cet état d'esprit un peu de mutualisation, de complémentarité, ouais, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, j'en suis convaincu. Il y a tellement de choses à faire sur ce territoire. Voilà, il faut un peu d'ordre. La nature doit être un peu ordonnée aussi, je crois. Mais c'est vrai que la charte du parc, ça permet de donner un cadre pour intervenir collectivement sur certains points précis qui sont identifiés collectivement et se dire voilà le cap que l'on prend en fait tous ensemble et chacun a son, voilà, comme dans une partition de musique, a son rôle à jouer dans ce domaine-là.
Dans ce domaine-là. Est-ce que justement le parc est un territoire ouvert ou fermé, Jacqueline Bouillac?
Je pense que c'est un territoire ouvert. Il n'y a aucun souci. C'est pas quelque chose de fermé. D'abord, on n'est pas mis sous cloche. Hein.
Voilà, j'ai voulu bien le mot sous cloche.
J'aime bien le mot sous cloche et je vais même dire le mot que préfère le président Muselier. On ne va pas se retrouver dans une réserve d'Indiens.
Voilà, justement, la question, j'avais une question. Est-ce que, justement, ça regroupe un petit peu ces questions, si vous permettez, Jacqueline Bouillac. N'y a-t-il pas malgré tout à craindre une sorte de mise sous tutelle, moi je n'ai pas employé le mot sous cloche, du territoire et des villages concernés par le périmètre du parc, justement? Vous dites c'est ouvert. Et est-ce qu'il y a une crainte ou pas, justement, d'une mise sous tutelle du territoire? Même vous êtes déjà rassuré en partie depuis tout à l'heure.
Bon, je pense qu'il n'y a aucun souci. Par contre, on peut rassurer la population du parc que ce n'est pas les grandes intercommunalités comme la COGA ou les métropoles. Il n'y a personne qui viendra mettre son nez là-dedans.
D'accord, hein, voilà. C'est rassurant. Bernard Mondeau, après Luc Renard.
Je voudrais ajouter quelque chose d'important. Un parc n'a pas de pouvoir. Un parc n'impose pas. Un parc, il est là pour conseiller, pour sensibiliser Et pour informer. C'est ça qui est important.
Et pour accompagner.
Et pour accompagner. Voilà, donc il faut enlever de l'idée la possibilité qu'un parc soit une possibilité de fermeture, de mise sous cloche. Au contraire, c'est une ouverture, puisqu'en plus, les parcs vont rendre acteurs les habitants du territoire.
Voilà, moi je voudrais repréciser en tant qu'élu que les parcs n'ont pas de pouvoir réglementaire. Le pouvoir de police appartient toujours au maire de la commune. Donc qu'il n'y ait pas mal d'ordre et que l'on cesse les approximations douteuses.
Et toujours sous le contrôle des préfets, du sous-préfet.
Ah, bien
voilà.
Entendu.
Donc il
n'y
a aucun
bien
souci.
Il est clair que si demain une loi européenne ou une loi nationale s'impose sur notre territoire, elle s'imposera aussi bien sur un territoire parc naturel régional que sur tous les autres territoires. Mais par contre, il n'y a pas de spécificité. Le syndicat du parc n'a pas un pouvoir réglementaire, ne peut pas faire la police. Sans avoir l'appui justement des élus locaux, des élus territoriaux.
C'est peut-être le moment d'aborder le problème des chasseurs.
On va l'aborder après.
Je voulais
après,
faire un petit focus, puisqu'on en était sur cette question-là, du fonctionnement. Quelles sont les instances décisionnelles? Non, puisqu'on a dit qu'ils ne prenaient pas forcément des décisions. Mais quelles sont les instances? Qui fait quoi? Comment ça fonctionne?
Oui, c'est super, la transition est faite. Voilà. Parce que je voulais juste rebondir sur ce qui était dit avant et ça permet de faire le lien. C'est qu'en fait, ce sont les élus qui décident dans un parc naturel régional. Ce sont des élus régionaux, départementaux, intercommunaux, municipaux qui viennent, qui siègent et qui lèvent la main en disant « je suis d'accord ou pas d'accord ». Voilà. Généralement, dans ce type d'instance, il y a plutôt une entente pour que les choses se passent bien, des décisions plutôt unanimes, consensuelles. Et puis, si jamais il y a un problème, je pense qu'elle s'exprime aussi. Mais ça veut dire qu'il n'y a aucune décision qui est prise à l'encontre de l'intérêt des communes et de leurs habitants. Sinon, bien évidemment, le maire de la commune, les élus locaux, voilà, refuserait toute action ou toute initiative qui irait à l'encontre de cet intérêt-là. Et c'est dans ce sens-là que ça fonctionne, puisque dans un parc, ce sont des élus qui siègent au sein de ce qu'on appelle un comité syndical. Dans nos associations, nous avons des assemblées générales, le principe est le même. Nous avons un comité syndical où les élus sont appelés à se prononcer sur des questions de budget, d'action, d'orientation, etc. On est vraiment dans une démocratie. On a employé beaucoup le terme de démocratie participative tout à l'heure avec les habitants. Ce principe se poursuit, comme dans les conseils municipaux, comme dans les associations, voilà. Comme dans toutes les instances démocratiques dignes de ce nom, les gens sont appelés à se prononcer et c'est comme ça que ça fonctionne.
Merci Kendrina. Peut-être encore une question pour vous, entre autres, ou peut-être pour les autres. Les parcs ne sont-ils pas les pionniers du développement durable? On a parlé d'environnement un petit peu, même assez souvent dans notre discussion depuis tout à l'heure. Est-ce qu'ils ne sont pas les pionniers justement du développement durable?
Ah, ça rejoint la question tout à l'heure sur l'origine des parcs, etc.
Parcs, ouais.
Oui, c'est sur les années 60. C'était une période, en fait, où la communauté internationale, on l'a vu avec notamment l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO aussi, sur la fin des années 60-70, où c'est aux préoccupations qui étaient marquées par des grandes catastrophes écologiques. En fait, ce qui a fait bouger aussi les choses, c'était des naufrages pétroliers, des choses de ce type, des famines qui interpellaient les grands décideurs mondiaux et la communauté scientifique, qui les a poussés à s'interroger sur « et demain, que fait-on ? » Voilà. Ce concept de développement durable, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a été formalisé au tout début des années 70, en 71, si ma mémoire est bonne. Mais c'est vrai qu'intégrer simultanément des notions de protection de l'environnement, de valorisation, de développement économique, voilà, essayer de boucler la boucle, hein, un petit peu d'une société qui se pose la question sur comment on vit mieux demain, tout en gardant un petit peu ce qui fait notre richesse, qu'elle soit notre cadre de vie ou autre. On peut dire en cela, en effet, que est-ce qu'ils ont été pionniers? Parce que le terme est un peu fort, mais au niveau de la législation française, tout de même, les parcs naturels régionaux ont poussé, on va dire, dans cette direction-là, oui. Et c'est leur capacité d'innovation, d'expérimentation qui est encore en vigueur aujourd'hui. Hein. Tout n'est pas inventé, bien évidemment.
Alors, Luc Reynard ou Bernard Mondon, est-ce que ce n'est pas une forme d'aménagement du territoire, justement? Une nouvelle forme d'aménagement du territoire, Bernard Mondon.
Alors, une forme d'aménagement du territoire, c'est une vision différente. Je disais tout à l'heure, on avait une vision, chaque versant du Ventoux avait sa vision de la montagne et son approche. Et là, cette approche globale va permettre d'avoir une vision générale et de faire participer tous les habitants en les rendant acteurs, je répète, parce que c'est très important, de tout ce qui va se faire sur ce territoire Ventoux.
Alors, si vous permettez, on se refait encore une petite pause musicale et on se retrouvera ensuite pour la troisième partie de cette émission des Pieds dans le Parc. À tout de suite.
J'aurais pu traîner le long de mes rêves.
J'aurais pu l'air de rien. Attendre ici que la journée s'achève. Sortir le chien, si j'en avais un. J'aurais pu m'inventer des inventaires. Refaire et faire le point. Mais ce matin, j'ai bien plus cher à faire. Bam, da, ba, da, bam. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous ces mots que nous taisons. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, ou comme ils comptent pour moi chaque instant, de mots doux et remettre au lendemain. C'est bien plus simple d'émettre des haines, bien anonyme, tapis dans son coin. Écoulent nos vies et l'eau des fontaines, la vie de quotidien. Et passent les jours et puis les semaines. Bam, bada, bada. Ce matin, dire aux gens que j'aime, ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous les mots que nous cachons. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, ou comme ils comptent pour moi chaque instant, de mots doux c'est mieux qu'un grand chrysanthème, et le dire c'est important. J'aurais pu traîner le long de mes rêves. J'aurais pu l'air de rien. Attendre ici que la journée s'achève. Bam, da, ba, da, ba. On devrait dire aux gens quand on les aime. Trouver les phrases, trouver le temps. Qu'ils changent nos
Écoutez Les Pieds dans le Parc, une émission réalisée en partenariat avec la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil départemental de Vaucluse et le SMAEV, syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux.
Voilà, nous entamons la troisième partie de cette émission Les Pieds dans le Parc, toujours avec nos invités Jacqueline Bouillac, Luc Reynard, Bernard Mondon et Ken Reynard. Et après cette petite pause, Anne, tu avais une question à poser sur la chasse.
Alors concrètement, on peut se demander quand même ce que va faire le parc naturel régional du Mont Ventoux en ce qui concerne donc la faune, la flore, la pollution des cours d'eau notamment, la circulation des engins motorisés. La chasse, peut-être. Est-ce que ça ne va pas avoir un impact?
Ah là là.
Ah, grande question. Hein.
Grande question et gros problème, cette chasse. Non, non, la chasse, les chasseurs. Bon, d'abord, je voudrais préciser une chose. Moi, je suis fille de chasseur, sœur de chasseur, qui habite Bédouin et le Mont Ventoux. Donc, imaginez-vous que je mette des interdictions sur la chasse. Je ne peux plus rentrer dans la famille.
On ne peut plus dans la famille.
Donc, ce n'est pas possible. Mais bon, là, on a voulu les rassurer. On est allé les rencontrer à la Fédération départementale à Avignon. Et le premier jour, on m'a dit, on ne veut même pas vous entendre, on ne veut pas vous voir. Vous allez interdire la chasse. Bon, mais je suis revenue. J'ai dit, je vais demander à monsieur le sous-préfet de m'accompagner pour qu'il dise réellement quels sont les pouvoirs du parc. Un parc n'a aucun pouvoir. Tout à l'heure, Bernard Mondon des Carnets du Ventoux l'a bien précisé aussi. Un parc, c'est fait pour accompagner. Donc accompagner, ça veut dire aider éventuellement les chasseurs à repeupler à la fin de la chasse, hein, pas au début. Je vais simplement repréciser que les chasseurs, la Fédération départementale de la chasse, a été invitée à nos ateliers. Donc les premiers ateliers ne sont pas venus, mais après, quand on est allé les rencontrer avec monsieur le sous-préfet, ils sont venus à nos ateliers. Ils sont venus au comité de pilotage et au dernier comité de pilotage qui avait lieu à Savoyant. Ils sont venus avec le président départemental de la Fédération de chasse, il est venu avec la directrice. Et là, quand je les ai vus tous arriver, je me dis, ah là là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ils sont tous venus dire qu'ils adhéraient totalement à tout ce qu'on avait dit, que tout ce qu'on avait dit était vrai, qu'il n'y avait aucun problème avec les chasseurs et qu'il n'y aurait aucun problème avec les chasseurs, que les propriétaires des terrains restaient propriétaires de leur terrain, qu'on n'irait pas mettre d'interdiction nulle part. Voilà, donc ils ont adhéré totalement au parc et ils sont porteurs du parc maintenant, au contraire. On va les aider d'ailleurs à repeupler à la fin de la chasse. Ouais. C'est une subvention qui a été aussi votée pour les aider.
Pour les aider, le créneur.
D'ailleurs, ce qui est important et ce qui fait aussi une des particularités de ce projet de parc du Ventoux, on a parlé tout à l'heure de la gouvernance, c'est que nous sommes les seuls à avoir envisagé une convention écrite donc entre la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse et le projet de parc. Et à partir du moment donc où les choses seront écrites, donc ce sera beaucoup plus tangible, ce sera bien entendu respecté. Et donc on le redisait tout à l'heure, il n'est pas question qu'un parc interdise. Ce n'est pas son rôle et il n'en a pas le pouvoir. Donc au contraire, nous sommes sur un territoire où on veut continuer à perpétuer les modes de vie qui sont ceux de nos ancêtres et qu'on espère transmettre à nos enfants. Et donc, il faut que l'on continue à vivre. On n'est pas, on revient toujours à cette notion de mise sous cloche. Donc, on est un lieu de vie. Il faut que ça continue et le parc n'a pas du tout vocation à restreindre les libertés des uns des autres.
Canrina.
Oui, dans ce tour de table, hein, je trouve qu'il y a beaucoup de chasseurs. Voilà, soit qui pratiquent, soit qui sont descendants. Et moi aussi, je suis un descendant de chasseurs du Ventoux. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai fait ce métier, parce que j'ai appris à découvrir ce qui m'entourait avec ma famille qui avait un fusil à la main. Et moi, j'étais plus en train de regarder ce qui se passait à mes pieds que regarder ce qui partait devant les chiens. Peu importe. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce que soulignaient Madame Bouillac et Monsieur Reynard, il y avait deux préoccupations des chasseurs. C'était accéder au territoire de chasse, et on rejoint la question sur les engins motorisés, la circulation, et puis continuer à pratiquer, ça paraît quand même aujourd'hui assez, ça paraîtrait assez ahurissant, vu les populations de gibier, de sangliers,
de prolifération de sangliers
qu'on a vu ces dernières années, se dire tiens, si on limitait un petit peu la chasse, voilà, enfin, je pense que ça serait quand même complètement déraisonnable d'aller dans cette direction-là, d'autant plus que ça a été dit, un parc n'a pas de pouvoir pour réaliser cela. Sur la question de la circulation et donc de l'accès au territoire de chasse, les chasseurs sont titulaires d'un bail, d'un droit de chasse et donc d'une circulation via les sociétés communales de chasse. Donc il était hors de question de remettre cela sur la table. Ça paraissait pas envisageable non plus, pour toutes ces raisons, parce qu'il faut aussi gérer ces espaces forestiers, ces espaces naturels et limiter les dégâts sur les cultures, sur les forêts ou la collision. Et puis enfin, le dernier point, c'est qu'on est allé encore plus loin. Voilà, M. Reynard parlait de convention et on parlait tout à l'heure de qui décide dans un parc. On a parlé d'un comité syndical qui regroupe des élus. L'idée, c'est que la porte a été ouverte jusqu'à faire rentrer la Fédération départementale des chasseurs dans le comité syndical, dans cette instance, et qu'ils puissent aussi s'exprimer et dire ce qu'ils pensent des orientations et des décisions qui sont prises. Voilà. Les chasseurs disposent d'un siège au sein du comité syndical et c'est important, je pense, aussi de le rappeler.
Alors, Bernard Mondon, vous qui représentez les habitants, justement, est-ce que cela, vous avez participé à toutes ces discussions ?
Oui, alors après, les chasseurs, je vais ouvrir un peu. Les chasseurs vont continuer à chasser, qu'ils sachent et qu'ils entendent. Mais les promeneurs pourront continuer à se promener. Et les cyclistes pourront continuer à pédaler. Et les ramasseurs de champignons pourront continuer à les cueillir des champignons. Voilà, un parc ne va rien interdire. Il va nous permettre de travailler ensemble. Voilà, qu'on l'entende.
C'est un territoire ouvert.
Parce qu'on a même entendu dire qu'avec l'arrivée du parc, les coureurs du Tour de France ne viendraient plus escalader la montagne. Voilà, on entend tout. Donc, il est temps maintenant de dire les choses telles qu'elles sont et que tout le monde les entende de façon à ce que les fausses rumeurs ou les bruits ne courent plus.
Alors justement,
laissant courir le gibier.
De la chasse aux agriculteurs, il n'y a qu'un pas. C'est la même chose pour les agriculteurs, puisque Luc Reynard disait le parc n'est pas là, vous le disiez tout, on n'est pas là pour interdire. Les agriculteurs, on ne va pas les obliger à se conformer, à partir, par exemple, d'aller tous vers le bio. Ce n'est pas le but non plus, Luc Reynard.
Non,
il n'y a pas de contrainte non plus pour eux.
Non, il n'y a pas de... pas de contraintes particulières, mais simplement donc il y a des réglementations, donc les agriculteurs les respectent, vont les respecter, et puis surtout ce qui est important, c'est quand même la conscience qu'ils en ont eux-mêmes. Et on ne fait pas du bio parce qu'on se trouve dans un parc ou parce et on ne fait pas du, on n'exagère pas sur les traitements parce qu'on n'est pas dedans. Après, c'est une question d'éthique, c'est une question personnelle. Et effectivement, par contre, le parc, je reviens à ces assistances techniques dont on peut bénéficier, à ces conseils, à ces organisations, eh bien, le parc est un élément qui permettra justement demain, eh bien, de continuer cette évolution qui est une évolution naturelle.
Oui, et puis si je peux me permettre, pour les agriculteurs, mais pour tous les gens qui travaillent autour de cette montagne, le parc, ça va être un label.
C'est ce que j'allais
dire. Vous savez, une cagette de tomates ou de fraises ou de raisins muscat qui arrive à Paris, moi j'ai été plusieurs années à Paris, avec la mention importée ou venue du pays du Ventoux, venue du parc naturel régional du Ventoux, ça parle plus que venue d'une communauté de communes que l'on connaît dans le Vaucluse mais qu'on ne connaît pas ailleurs. Donc le label parc du Ventoux, ça va être une vraie force commerciale.
Oui. Aussi bien pour le tourisme, pour les loueurs de gîtes aussi qu'on n'a pas abordé, puisque dans les habitants Bernard Mondon, il y a aussi tous ceux qui vivent du tourisme autour de nous, ils sont nombreux.
Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont quand même, pour continuer à vivre, parce que ce n'est pas facile non plus pour eux, ils ont aménagé leur maison ou leur petit cabanon, enfin un gîte qui pourront louer beaucoup plus facilement, parce que les gens, quand ils vont chercher une location, ils aiment bien venir dans un parc. Je ne sais pas si votre fille n'avait pas cette tactique aussi de dire si je vais dans un parc, c'est parce que je suis plus tranquille, parce que c'est plus protégé, parce que...
Alors c'est pas ma fille directement, mais le parc régional des Monts de l'Ardèche, puisque à la base on peut le dire, je suis de l'Ardèche. Mon gendre, viticulteur, était farouchement opposé à la limite à la base. Et maintenant, il ne voudrait pas y revenir dessus. Puisqu'il loue effectivement en tant que viticulteur un gîte, et pour lui, le label, les packs pour lui, pour tous ceux qui sont comme lui, c'est un gage de qualité.
Ouais, moi je crois qu'en effet, il faut vraiment insister sur ça. Un parc, ce n'est pas un établissement venu d'on ne sait où, de strate tout en haut de l'État qui va imposer des normes. Aujourd'hui, on nous a dit qu'il fallait rouler à 80, peut-être demain à 90 km/h sur les routes, c'est pas les parcs qui gèrent ça. Sur les dosages phytosanitaires en agriculture, c'est pas un parc qui dit ça. Un parc qui s'occupe absolument pas de ça, ni de la longueur des shorts, et là je fais référence à quelqu'un qui nous a donné cette expression dernièrement. Voilà, un parc, il est pas là pour vous dire ce que vous devez faire le matin en vous levant, absolument pas. Il est là pour en effet accompagner une économie, avoir une image de marque, être là au plus près des habitants, des agriculteurs, etc. Et faire en sorte que ce qui est décidé soit décidé ensemble et pas contre.
Un exemple qui est tout à fait frappant, c'est le travail que nous menons actuellement pour la réhabilitation du sommet du Mont Ventoux. Bon, on sait très bien qu'au sommet du Mont Ventoux, il y a 4 communes qui y aboutissent. Bon, la principale est Ambédouin, qui a pratiquement toute la face sud. Beaumont tenant pour un quart et Brant et Saint-Léger tenant le reste. La démarche collective, justement, fait que nous allons tous ensemble réfléchir à une organisation. Jusqu'à maintenant, que se passait-il? Eh bien, chacun raisonnait au niveau de sa commune, au niveau de ses limites territoriales. Alors que le touriste qui vient nous visiter, lorsqu'il monte au sommet du Ventoux, ça ne l'intéresse pas de savoir s'il a un pied dans Beaumont, un pied dans Bédouin, ou s'il est sur Saint-Léger, ou ailleurs, ou sur Brant. Ce qui l'intéresse, c'est que le lieu où il accède, ce soit un lieu aménagé, ce soit un lieu où la nature soit respectée, que ce soit un lieu qui soit entretenu. Et je crois que je complète un petit peu les propos que tenait Bernard Mondon tout à l'heure, c'est-à-dire on agit collectivement, et pour le plus grand bien, de ce territoire.
Voilà, parce que ce territoire, il faut protéger sa beauté. C'est un territoire tout à fait étonnant. Il faut protéger ce petit patrimoine qui fait la beauté du paysage. Quand vous voyez le Ventoux, vous voyez devant tantôt une chapelle, un cabanon, un lavoir, une fontaine. Tout ce petit patrimoine qu'on oublie et qui mérite d'être réhabilité et qui mérite d'être conservé, ça va être un des rôles du parc. Et ça, c'est très important parce que l'image de notre pays, c'est l'image de son pays, de ses paysages. Et il ne s'agit pas de protéger les paysages du sud du Ventoux, du nord du Ventoux, de l'est. Il s'agit de protéger tous les paysages du Ventoux.
Alors le contribuable, il va se poser une question, hein. Ça a un coût tout ça? Est-ce que ça va avoir un impact sur les impôts ou pas, le fait d'avoir un parc?
Alors je vais les rassurer tout de suite, hein. Il n'y aura pas de tranche de plus au millefeuille.
D'accord.
Ce qui était affecté au syndicat mixte sera affecté à la gestion du parc, au syndicat de gestion du parc. Les communes qui payaient, je crois maintenant 3,10 €, on a ramené, c'est pas beaucoup le petit moyen, mais à 3 €. Par habitant, je crois qu'on l'a même bloqué. On ne fera pas évoluer cette somme.
D'accord, la somme est gelée pour plusieurs années.
Voilà.
on l'a figé. Oui.
Ça a été figé. Et c'est important que ce soit figé parce qu'on peut nous dire, oui, la première année, vous nous dites 3 euros, puis après, vous nous direz plus. Non, non. Alors, c'est 3 euros. Par contre, la participation de la région est très importante. Hein. 500 000 euros, c'est énorme. Hein. Donc le département, la moitié à peu près. Et les communes donc, participent pour le reste.
Donc les communes participent pour la... Justement, pour les communes du Crénard, vous avez été rassurée en tant que maire de savoir que la somme allait être gelée parce que c'était une inquiétude aussi.
Bien entendu, dans la politique actuelle de maîtrise des budgets. Ouais. Et donc chacun connaît les difficultés que chacun éprouve et chacun connaît aussi d'ailleurs l'exigence des uns et des autres, donc que ce soit les administrés ou que ce soit les consommateurs. Mais c'est important que l'on puisse continuer... On a défini de façon assez claire les missions dans lesquelles l'on veut s'engager avec le parc. Donc, on en maîtrise de la même manière le coût. Même si le parc, c'est un territoire d'innovation, nous sommes des gens réalistes. Nous sommes des gens de terrain, nous sommes des gens pragmatiques. Nous ne cherchons pas tous les jours, passez-moi l'expression, à inventer la poudre. Donc on essaie au contraire de gérer un bon père de famille, et gérer un bon père de famille, eh bien c'est labelliser ce territoire, c'est labelliser ses productions, c'est de permettre aux gens qui sont sur ce territoire de continuer à vivre et à bien y vivre.
Si je peux ajouter quelque chose, nous avons la chance de vivre dans une des plus belles régions de notre pays, et je crois qu'il faut savoir mieux la valoriser, mieux la protéger, et un parc va participer à cela. Il faut que nous soyons dignes de cette région, et maintenant avec un parc, on va arriver à faire mieux et plus.
Et plus. Peut-être pour conclure, Anne, une question à
Les dernières étapes à venir. Que je crois que début janvier 2019, la région a saisi l'autorité environnementale pour avis sur la base du dossier finalisé après intégration des modifications qui ont été issues d'un avis intermédiaire. Et puis après, il y a d'autres étapes à venir.
Les autres étapes, Madame Bouillac.
Jusqu'en décembre même.
Une enquête publique est prévue ensuite au printemps.
Oui.
Une enquête publique dans les mairies où chacun va pouvoir... mettre ce qu'il a envie de mettre. Si une erreur a été détectée, bon, on y remédiera. Mais je pense qu'il n'y a pas eu d'erreur puisque ça a été bien relu et approuvé lorsque nous étions à Mormoron fin décembre 2018 avec tous les acteurs. En juin-septembre, il y a une phase de consultation des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre. Ça doit durer 4 mois. En octobre 2019, il y a un vote par la région. La plénière du mois d'octobre, nous voterons cette charte finalisée à la région. Et en décembre 2019, nous reviendrons devant le CNPN, qui est le Conseil national de protection de la nature, pour valider et attendre le décret de création du parc.
Du parc, donc toutes les dates, voilà, et donc la signature pourrait être un beau cadeau de Noël.
On l'espère.
On espère le cadeau.
On espère qu'on aura le même cadeau que pour la Sainte-Baume.
Que pour la Sainte-Baume.
En décembre.
En décembre. Peut-être avant de conclure cette émission, l'agenda avant tout, il y a quelques beaux événements que je voudrais vous signaler avant la fin de cette émission. Donc le groupement de développement agricole du Ventoux et ses partenaires, dont le SMAEV, organise un forum professionnel le 26 mars de 8h30 à 16h30 à la salle de la Boiserie Amazon pour débattre sur le thème de face au changement climatique, bâtissons ensemble une agriculture d'avenir pour le Ventoux. Donc à cette occasion de cette journée, il y a beaucoup d'intervenants, entre autres, je peux en citer quelques-uns, Guillaume Benoît qui est ingénieur général, membre du Conseil général de l'alimentation et de l'agriculture et des espaces ruraux au ministère de l'Agriculture. Il y aura également Inaki Garcia de Cortazar Autori, qui est ingénieur de recherche à l'unité agroclim à l'INRA, Olivier Jacquet, conseiller viticulture et œnologie à la Chambre d'agriculture de Vaucluse, et Jean Jouzel, qui est climatologue, glaciologue et coloréat du prix Nobel. Donc si vous voulez participer à cet événement qui se déroulera à la salle de la Boiserie de 8h30 à 16h le 26 mars, ben tout simplement vous inscrivez sur www.chambre-agriculture84.fr ou au numéro que je vais vous donner, 04 90 69 62 00. Deux autres événements rapidement, il y a le 2 mars une conférence à la Boiserie, le magazine Sans Transition accueille Claude et Lydia Bourguignon, donc n'hésitez pas, c'est le 2 mars à la Boiserie. Et pour terminer aussi, se tiendra le premier printemps des paysans. C'est un marché des producteurs et de nombreuses animations au cœur de la ville de Carpentras de 14h à 20h. C'est un événement qui est organisé par les BTS DATR du campus Louis Giraud avec le soutien de la mairie de Carpentras et de la Chambre d'agriculture de Vaucluse. Voilà ce premier marché des paysans. Je rappelle la date, le premier printemps des paysans, le 30 mars à Carpentras. Merci en tout cas à toutes et toutes pour votre participation. l'association. Je répète donc merci Jacqueline Bouillat, conseillère régionale déléguée aux parcs naturels régionaux de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, première vice-présidente du SMAEV et première vice-présidente de la commission parcs naturels régionaux. Également merci Luc Rénard, je rappelle que vous êtes maire de la commune de Bédouin, vous êtes également vice-président du SMAEV, vice-président de la COV et également président de l'office de tourisme intercommunal du Ventoux-Provence. Merci également de votre venue. Bernard Mondon, merci, vous êtes président des carnets du Ventoux. Peut-être une adresse pour les carnets du Ventoux rapidement, Bernard Mondon.
Boîte postale 44 84210 à Pernes-les-Fontaines.
Merci Bernard Mondon et merci également Ken Rénard, responsable du projet de parc naturel régional du Mont-Ventoux. Et merci à Anne et merci à toutes et tous d'avoir participé à cette émission qui est réécoutable sur le www.rtvfm.net. Et on vous donne rendez-vous avec Anne pour un prochain numéro.
À bientôt.
Merci, au revoir.
À tout bientôt.
Merci.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Venez d'écouter Les Pieds dans le Parc, une émission réalisée en partenariat avec la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, le conseil départemental de Vaucluse et le SMAEV, syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux.
Il faudrait être des dieux, il faudrait être fort, comme si mouiller des yeux, c'est pour ceux qui ont tort. Il faudrait danser et cacher sa douleur, être le dernier à pleurer, jamais montrer sa peur. Il faudrait être des rois, il faudrait faire le fier, comme si baisser les bras, c'est pour celui qui perd. Il faudrait cogner et puis bomber la torse, être le premier à crier plus fort. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, j'ai le cœur sur la main. Si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain. Faudrait être un génie, être une ode à la joie, à chaque fois qu'on nous dit, et toi comment tu vas? Il faudrait pousser tous ceux autour de soi, être le premier à crier, regardez-moi. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct, moi je ne suis pas.